Luc chapitre 2, et nous allons un peu méditer sur le récit des bergers. Hein, vous savez, si vous voulez savoir si vous connaissez l'histoire, parce que je suis sûr que chacun, si on lui demandait est-ce que vous connaissez l'histoire des bergers et puis la crèche, chacun va dire oui, oui, je la connais. Vous voulez un test, c'est de trouver des petits-enfants et de leur raconter l'histoire et de la rendre intéressante et de se souvenir de tous les détails. Et c'est un bon exercice, et là on se rend compte souvent que on ne connaît pas, on ne sait pas raconter les histoires et on ne connaît pas les détails. Mais donc Luc chapitre 2, et je vais commencer la lecture au verset 8. Luc chapitre 2 et verset 8, il dit: Il y avait dans ces mêmes contrées des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux, et ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit: Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour vous, pour tout le peuple, le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant: Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres: Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte. Et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. La première chose que je veux souligner ce matin, c'est penser à toutes les personnes dans ce récit, hein, de la naissance, hein, tous les détails, toutes les personnes auxquelles un ange, ou le Seigneur, ou quelque part, dans une vision, quelque chose, à qui il a parlé. Et commencer à faire la liste des personnes à qui le Seigneur a parlé, et tout cela. Et ça faisait quand même 400 ans que personne n'avait entendu. Il n'y avait ni prophète, ni rien du tout. Depuis, entre Malachie et Matthieu, il y a 400 ans de silence. Et là, tout d'un coup, ça se met à parler. Le ciel commence à parler. Et vous allez remarquer que le Seigneur parle à des gens qui sont responsables dans leur vie, qui ont du caractère, qui vivent ce qu'ils croient. Hein, premièrement, c'est Zacharie, le mari d'Élisabeth, et qui a eu le fils Jean-Baptiste. Zacharie, eh bien, il nous dit qu'il remplissait ses fonctions devant Dieu dans le temple. Il s'acquittait de ses fonctions, il faisait ce qu'il avait à faire, c'était son tour. Il était prêtre et son tour était venu pour venir et apporter les encens à l'autel, des parfums. Et il l'a fait fidèlement. Et c'est parce qu'il était fidèle, c'est parce qu'il était disposé que c'est là que l'ange l'a rencontré. Il aurait pu le rencontrer chez lui, il aurait pu le rencontrer ailleurs, mais c'est là qu'il le rencontre, dans le temple. Tandis que pour Marie, hein, tout d'un coup, elle est chez elle. Elle est en train de vivre sa vie chez elle, et elle est certainement seule. Et l'ange Gabriel apparaît, et c'est là où il lui fait cette annonce de l'intention que Dieu a de se servir d'elle pour donner le sauveur au monde. Joseph, ben lui, il est préoccupé. Il est Il est fiancé, mais il se rend compte que sa fiancée est enceinte. Pourtant, il l'aime. Il ne veut pas la diffamer. Il ne veut pas en faire un scandale. Et il s'endort le soir en train de dire, mais je ne veux pas lui faire du mal. Comment est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je peux rompre ça sans que ça lui fasse du tort? Et c'est avec ces pensées-là qu'il s'endort. Et puis il prend la décision et dit, ben écoute, certainement qu'il a décidé, je vais rompre secrètement et je dirai à personne et puis on fera ça sans bruit. Et c'est pendant son sommeil que il a cette vision de l'ange qui lui dit, écoute, Joseph, il y a des détails que tu ne connais pas. Ce qui arrive à Marie, ta fiancée, vient de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Donc continue avec tes engagements. Et prends-la. Mais c'est un homme qui était en train de vouloir bien faire, des bonnes intentions, même s'il se trouve dans une situation assez difficile et délicate, du point de vue humain en tous les cas. L'ange apparaît aux bergers. Les bergers, ben, ils faisaient ce que font les bergers. Ils gardaient leurs troupeaux la nuit. Hein, pour les protéger des animaux sauvages, protéger des voleurs. Et voilà, ils faisaient ce qu'ils avaient à faire dans le champ. Et c'est à eux que l'ange est apparu. Aussi, qui a une révélation, les mages d'Orient, et qui, eux, faisaient, qui observaient le ciel, et qui, dans un sens, ont l'impression qu'ils cherchaient le signe de la naissance du roi en Israël. Ils attendaient ce signe. Et quand ils l'ont vu, ils ont réagi. Mais c'est chacun agissait avec ce qu'il avait, ce qu'il devait faire, ce qui était attendu de lui. Chacun était fidèle. Et vous savez, c'est le Seigneur. En fait, c'est pas ceux qui crient et qui disent Seigneur, parle-moi et qui disent Seigneur, montre-moi. C'est ceux qui font fidèlement ce qu'ils savent faire. Hein, ce sont ces personnes-là que le Seigneur encourage. Et ici, eh bien, nous avons le récit de l'ange qui apparaît au berger. De tout le monde qui était présent, qui était dans le pays, c'est pas dans chez Pilate, ce n'est pas dans le temple, c'est à des bergers que l'ange apparaît. C'est eux que le Seigneur choisit pour leur donner les premiers informés de la naissance de Jésus. Et vous savez, s'il les a choisis, nous savons que le Seigneur ne fait rien comme ça au hasard, ni de manière arbitraire. Hein, il ferme pas les yeux et dit, bon, qui est-ce que je prends puis après, la carte, qui est là? Ah, il y a des bergers là. Bon, alors c'est à eux que je vais parler. C'est pas comme ça, c'est pas le travail de Dieu. Nulle part est-ce qu'on voit que Dieu travaille de cette manière-là. Dieu sait ce qu'il fait. Il choisit. Là, les bergers ne faisaient rien d'extraordinaire. Ils faisaient, comme j'ai dit tout à l'heure, ils faisaient ce que font les bergers. Ils gardent leurs troupeaux. Mais c'est eux qui choisissent. Mais lorsqu'on regarde la réaction que les bergers ont plus tard, on comprend pourquoi le Seigneur les a choisis. Hein, lorsque vous lisez dans le verset 15, il dit, lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé. C'est-à-dire, c'est des gens qui, quand on leur parle, eh bien, ils disent, ben, alors on va y aller. Parce que vous savez, hein, il y a beaucoup de gens, ils entendent, et alors, qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Hein, non, il a pris des gens qui allaient réagir. Il a dit, ben, on a été informés, on va aller se renseigner, on va voir ce que le Seigneur. Si le Seigneur a pris le temps et fait l'effort de nous informer, eh bien, nous allons essayer de comprendre et voir. Et puis, il nous dit, au verset 17, il dit, après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce. C'est des gens qui ne ferment pas leur bouche, c'est des témoins, c'est des gens qui sont prêts à raconter. Le Seigneur cherche des personnes comme ça, qui sont prêts à partager ce qu'ils ont vu, entendu, compris, vécu. C'est ce genre de personnes que le Seigneur recherche. pas des gens qui se posent plein de questions et qui cherchent la théologie qu'il y a derrière, et puis, et tout. Non, non, spontanément, qu'ils disent ce qu'ils ont vécu. C'est ça que Jésus disait, va, dis ce que le Seigneur a fait pour toi, tout simplement. Jean chapitre 9, là, quand vous avez l'aveugle né qui guérit, et il est là, il est confronté à des théologiens de longue date qui ont posé des questions de toutes les manières possibles. Et il est confronté à eux, mais qu'est-ce qu'il leur dit? Il dit, je sais une chose, j'étais aveugle et maintenant je vois. Et leur théologie ne leur permettait pas de comprendre ça. Mais lui, il a dit, j'étais aveugle et je vois. C'est le Seigneur cherche des gens qui sont prêts à dire les choses telles qu'elles sont, c'est tout. Il a dit, je ne vous demande pas plus, je ne vous demande même pas de comprendre ni d'expliquer. Dites ce que le Seigneur a fait pour toi. Et puis aussi, je vois au verset 20, il dit, les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Voilà. Et alors, ce n'est pas seulement qu'ils sont là quand ils sont devant la crèche, mais lorsqu'ils partent, tous ceux qu'ils rencontrent, ils leur parlent de ça. Ça, c'est le genre de témoin que le Seigneur recherche. Vous savez, les bergers, en fait, il est évident, ils n'étaient pas à Bethléem. Ils n'étaient même pas à Bethléem. Parce qu'il dit, quand l'ange les quitte, hein, regardez au verset 15, dit, lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem. C'est qu'ils n'étaient pas. Ils étaient dans les environs, ils étaient dans la région, mais ils n'étaient pas à Bethléem. Alors que nous savons que Bethléem est plein à craquer. Il y avait tellement de monde à Bethléem que Joseph et Marie étaient obligés de rester dans une étable et que l'enfant devait naître dans une crèche. Et ce n'est pas à tout ce monde-là que l'Éternel parle. Mais il parle à des gens qui vont être des témoins pour lui. Dieu, dans sa prescience, dans sa capacité de savoir ce qui va se faire, eh bien, il se choisit des gens qui vont faire ce qu'il voudrait qu'ils fassent. Et c'est comme ça que, bien que n'importe quelle œuvre, là, c'était tout ce que Dieu fait pour les hommes, avec les hommes, ne sont que des grâces sur grâces. Et c'était une grâce que les bergers entendent. Et cette expérience, c'était une grâce extraordinaire. Hein. Peut-être que vous avez dit, moi, j'aurais bien aimé avoir ça aussi, moi, pour moi. Hein, c'est une grâce. Ce n'était pas qu'ils étaient plus dignes, mais le Seigneur savait ce qu'il ferait avec. Et c'est, vous savez, c'est le Seigneur va choisir des personnes qui vont être des témoins, des gens qui vont vivre pour lui. Hein, c'est pas au hasard comme ça dans le monde, il dit, bah, je choisis toi, 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 toi. Et comme parfois on choisit des volontaires. Mais non, il choisit les éléments dont il a besoin et qui vont accomplir son œuvre parce que Dieu a un plan et il veut le réaliser. Il leur dit, c'est dans la ville de David, et la ville de David est pleine, et Jésus est obligé de naître dans un mangeoire de moutons et de chèvres, parce qu'il n'y avait personne. Et vous savez, de nos jours aussi, hein, on a un peu la même pression que les gens, ben, on peut leur parler de Jésus, on parle du Sauveur, on parle de ceci, et il dit alors. Et il y a de l'inconscience. Et que le Seigneur sait où sont ceux qui, en entendant ce message, vont réagir, répondre et se renseigner dessus. C'est aussi un. Qui va venir adorer l'enfant Jésus si ce n'est des mages d'Orient? Ils vont voyager pendant des semaines pour venir et ils viendront. À Jérusalem, personne ne sera au courant. Il dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Personne n'est au courant. C'est ceux qui viennent, et vous savez, en France, malheureusement, hein, si ce n'était pas pour tous les étrangers qui aiment le Seigneur, eh bien l'Église évangélique de France serait malheureuse. n'y aurait pas grand monde. Mais le Seigneur dit, moi, c'est pas une question, je n'ai pas de préférence, c'est ceux à qui je me révèle, et ceux qui entendent mon message, et ceux à qui je dis, je vous aime, je suis mort sur la croix pour vos péchés, s'ils répondent, c'est eux que je veux. Et c'est avec eux que je bâtirai mon Église. Et pour Dieu, il n'y a pas d'étrangers, il va les chercher là où ils sont. C'est constamment, toute la semaine, j'entends des expériences et des récits de personnes que le Seigneur va chercher. Et là, les choses sont tellement désespérées que un gars qui a rencontré le Seigneur en prison, ici dans la région, eh bien, sa vie est tellement transformée que maintenant, c'est les responsables de la prison qui viennent le chercher et disent, écoute, viens, je veux que tu parles aux prisonniers de ce qui t'est arrivé. On vient les chercher. Tellement les choses sont graves. Mais c'est quelqu'un aussi qui n'a pas la langue dans la poche, hein, comme on dit. Hein, il parle. Hein, tous les samedis, il est sur les avenues de Nice. Et il parle de ce que le Seigneur a fait pour lui. Vous savez, nous devons. Le Seigneur sait qui il va chercher. Il va les chercher là où il les trouve. Et ce frère en particulier, il a été le chercher dans une prison avec un dossier, mais il a transformé sa vie. Les choses n'ont pas changé. Mais ce n'est pas parce que tous les gens de Bethléem. Et quand les bergers sont partis, ils l'ont raconté à tout, partout, ils louaient Dieu, tout ça. Et personne n'est venu. Il n'est pas dit que quelqu'un est venu voir pour se renseigner. Et on a l'impression que c'est l'indifférence totale. En fait, les seuls qui vont réagir à la naissance de Jésus, eh bien, ce sera Hérode qui sentira menacé. Il va vouloir le tuer. Hein, c'est la seule réaction. Qu'il y a. Et les habitants de Jérusalem, eh ben, ils tremblent parce qu'ils se disent, qu'est-ce qu'Hérode va faire maintenant? Parce que chaque fois qu'il se sent menacé, alors il exécute. Et il a exécuté, il est venu à Bethléem, il a tué tous les enfants d'en dessous de 2 ans. Il l'a fait pour s'assurer qu'il tuerait le Christ. Mais il l'a pas eu. Hein. Le Seigneur sait comment garder les siens. Mais vous savez, mais Dieu. Eh bien, si c'était des bergers, peu importe, des bergers. Je reçois le témoignage de bergers comme je reçois le témoignage de mages qui observent les étoiles du ciel. Maintenant qu'on a vu cela, regardez au verset 9, il dit, voici un ange du Seigneur apparu. Et c'est déjà extraordinaire. Mais c'est la deuxième partie. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. La gloire du Seigneur. Arrêtons de voir, mais c'est quoi la gloire du Seigneur? C'est pas n'importe quoi. C'est ces bergers qui sont là, dans le noir, et c'est pas juste une grande lumière qui les éblouit. Hein. C'est pas comme des phares dans la nuit. C'est la gloire du Seigneur. C'est pas seulement une grande lumière, c'est la gloire du Seigneur. La gloire. Celle qui lorsqu'elle a pénétré dans le temple de Salomon, les bergers, les prêtres n'ont pas pu rester. Ils ont dû sortir parce que la gloire du Seigneur remplissait le temple. La gloire du Seigneur, c'est Jésus, quand il était sur la montagne de Transfiguration, vous vous rappelez, il était là et puis il est. Tout d'un coup, Pierre lève les yeux, puis qu'est-ce qu'il voit? Il voit Jésus qui est en train d'une lumière en train d'émaner, et il dit qu'il était plus blanc que n'importe quel foulon de l'époque, plus blanc que le blanc qu'on pouvait créer à ce jour. Et il voit la gloire de Christ qui transparaît son corps. Et il y avait les témoins, il y avait Pierre, Jean et Jacques qui étaient tous les trois là, et tellement ils étaient affectés par ce qu'ils voyaient, Il a dit une bêtise, il a dit ben on va faire un temple pour Moïse, Élie et puis pour Jésus, comme s'ils étaient tous égaux. Mais c'est bon, il ne savait pas quoi dire, tellement il était affecté par ce qu'il voyait. Peut-être que la gloire du Seigneur a transparu aussi dans le jardin de Gethsémané, quand on est venu pour arrêter Jésus. Et alors, il dit, qu'est-ce que vous cherchez? Nous cherchons Jésus de Nazareth. Il dit, bah, c'est moi. Et quand il dit, c'est moi, tout d'un coup, ceux qui sont là, ils vont en arrière, et puis ils tombent eux-mêmes, il nous dit, hein, dans Jean chapitre 18. Il dit qu'ils tombent. Qu'est-ce qui pourrait les faire tomber? Peut-être est-ce qu'il y a eu un flash de la gloire de Dieu qui était là, et pour leur rappeler qu'ils n'avaient pas affaire avec un homme, tout simplement. Mais que c'était quand même Jésus. Et ensuite, eh bien, vous savez, Saul de Tarse, qui avait des pensées éloignées de Dieu et qui combattait l'Église de Christ, tout d'un coup, il a une lumière qui le frappe et qui le met à terre. Et là, il voit. Pour la première fois, il voit celui qu'il croyait être mort. Il voit Jésus. Et sa vie est transformée. Vous savez, associé à la gloire de Dieu, il y a toujours Dieu. Hein, il n'y a pas de gloire de Dieu et Dieu ailleurs. Toujours avec la gloire de Dieu, il y a Dieu présent. Et lorsque Jésus priait dans Jean chapitre 17, il disait, Seigneur, rends-moi la gloire que j'avais au moment où la terre a été créée. Rends-moi cette gloire qui était la mienne. Et cette gloire, il l'a eue. Hein, il l'a eue. Et lorsque nous lisons dans Apocalypse chapitre 5, Apocalypse chapitre 5, regardez comment ça se passe quand la gloire est là. Et Jésus, là nous avons cette scène de Jésus dans la gloire. Et je vais la lire, on reviendra dessus, refera référence à cela, mais. Il dit, puis je, au verset 1, il dit, puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de sept sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et lorsque, je lirai la suite plus tard, mais je reviens vers la fin. Et il nous dit, la louange qui apparaît au verset 17, verset 12, il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Il nous parle de cette. La fin du verset 13, il dit à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. Soit la louange, l'honneur, la gloire, la force au siècle des siècles. Pour ceux qui aimeraient nous dire que Jésus n'est pas Dieu, eh bien, ils ont du mal, parce que la même gloire est donnée et au Père et au Fils. Tout d'un coup, la gloire de Dieu remplit le ciel de cet endroit, ce pâturage où se trouvent les bergers. Et ce n'est pas étonnant que l'ange soit obligé de le dire après, ne craignez point, ne craignez point. Si quand le Seigneur se révèle à toi, ce n'est pas pour te détruire, c'est pour t'apporter quelque chose. Il dit, ne craignez point. Il dit, en fait, je vous annonce une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, le Christ le Seigneur. La nouvelle qui à elle seule peut apporter beaucoup de joie. Hein. C'est une nouvelle, une information. Hein. C'est comme quelqu'un cette semaine m'a envoyé un message, dit j'ai une bonne nouvelle. Mon épouse attend un bébé. Une bonne nouvelle. Ça apporte de la joie. Hein. Un groupe limité hein, pour ceux qui les connaissent. Mais c'est une bonne nouvelle, ça apporte. Il a dit, mais moi j'apporte quelque chose qui va apporter de la joie à un peuple, à un certain peuple. Il dit, parce qu'aujourd'hui est né un sauveur. Il ne dit pas un libérateur, il ne dit pas un avocat. Hein, qui va vous défendre. Il ne dit pas un révolutionnaire, il ne dit pas un défenseur, il ne dit pas un guerrier, mais il dit un sauveur. Et le mot sauveur inclut dans l'idée d'un sauveur, quelqu'un qui, lorsqu'on dit que quelqu'un est un sauveur, c'est, eh bien, vous pouvez penser à ce qui vient de se passer dans Vaux-en-Velin, là, avec ce feu, les pompiers. Quand eux, ils sauvent, eh bien, ils vont dans le feu pour sauver. Hein, on dit qu'on a été sauvé du feu, on a dit qu'on a été sauvé des flots, on dit qu'il a été sauvé d'un danger. Hein, et il nous dit, celui-là, c'est un sauveur. Ce n'est pas juste quelqu'un qui va vous parler, vous dire ce qu'il faut faire, et de loin, mais c'est quelqu'un qui va venir là où vous êtes, dans le danger, et il va s'exposer lui-même pour pouvoir vous extraire de là. Hein, c'est ça un sauveur. Et il dit, ce que vous avez, c'est un sauveur qui vient de naître. Pas quelqu'un, c'est pas un prophète de loin qui vous dit, écoutez, voilà ce que vous devez faire. Mais c'est quelqu'un qui va venir, il va se salir. Hein, les soldats du feu, là, quand ils viennent sauver quelqu'un, après, eh bien, il y a de la suie sur eux, il y a l'odeur de la fumée, il y a toutes sortes de choses. Ils prennent sur eux, ils sont tout propres quand ils arrivent, mais après, on sait qu'ils ont été exposés au danger. Le maître nageur, là, quand il sauve quelqu'un de l'eau, eh bien, il est mouillé, aussi mouillé que la personne qui l'a sauvé. Hein, c'est ça le sauveur. Et Jésus-Christ, eh bien, il dit, c'est un sauveur. C'est celui qui va venir et qui va goûter et qui va plonger dans le milieu dans lequel vous vous trouvez et duquel vous ne pouvez pas vous extraire et il vous sortir de là. Ça, il dit, voilà, j'ai une bonne nouvelle. Et dans le cas de Christ, c'est pas seulement qu'il va se salir de la terre ou qu'il va avoir de l'odeur de fumée sur lui, mais c'est que il va prendre le péché de l'homme sur lui. Il dit, il deviendra péché afin que nous devenions justice de Dieu. Ça, c'est un sauveur. C'est celui qui prend et qui combat avec moi ce qui m'empêche de vivre. Et dit, il aurait un sauveur. Et ce sauveur, qui est-il? Il est le Christ, le Seigneur. Vous avez un homme, hein, il dit, il y a un homme qui vient, qui va aller dans le milieu dans lequel vous vous trouvez, il va vous extraire de là, et celui-là n'est nul autre que le Seigneur. Et là encore, hein, je souligne le fait que ça, l'humanité et la divinité de Christ, elle est partout. C'est lui qui va venir nous délivrer des liens qui nous retiennent dans le milieu où nous sommes et pour nous libérer. Hein, et il a les moyens de le faire, il va se donner les moyens de le faire. Un début, c'est son incarnation, le fait de devenir homme, c'est ça, il va se donner les moyens de pouvoir être un sauveur. Et en tant qu'homme, eh bien, il va se préserver de toute souillure, de tout péché. Il sera sans péché, et puis après, ensuite, il va s'exposer à la mort, il va mourir sur la croix, il va mourir de la mort des hommes, alors que c'était pas normalement, c'est pas pour lui. Et puis il va aller jusque dans la tombe, ce que nous redoutons terriblement. Il va aller jusque dans la tombe, vaincre la mort, vaincre le pouvoir de la mort, parce que la puissance du péché, c'est la mort. Et puis il va revenir et dire maintenant, moi je peux vous prendre avec moi, vous n'aurez pas à vivre et à traverser tout cela, parce que je l'ai fait moi-même. Et c'est dans cela. Et donc c'est pour ça que c'est une bonne nouvelle. Il a dit c'est un sujet de joie pour un peuple. Quel peuple? Le peuple qui acceptera cela. Vous savez, Adam, Dieu l'a formé de la poussière de la terre. C'est Dieu qui l'a fait lui-même, il l'a formé. Et ensuite, il a soufflé un souffle de vie dans ses narines et il a pris vie. Ici, nous avons la naissance du deuxième Adam, et même dans 1 Corinthiens 15, il va nous dire du dernier Adam. Il parle du nouvel Adam qui naît, qui est formé par Dieu dans le sein de Marie. C'est formé par personne d'autre. Et ce n'est pas la nature qui le forme. Son corps est une création de Dieu. Il lui dit que c'est le Saint-Esprit qui viendra sur lui et qui formera son corps dans le sein de Marie. Et nous aurons le second Adam. Et c'est le principe de ce plan de salut de Dieu. Le premier Adam, eh bien, il a péché et il nous a mis dans une situation de laquelle nous ne pouvons pas nous extraire. Nous naissons tous pécheurs. Jésus-Christ est venu, nous avons un deuxième Adam qui est tout à fait homme, autant homme que Adam, qui est sans péché comme Adam était innocent à la création et qui va être testé comme nous l'avons vu dans Marc chapitre 1. Il sera testé, il est pur, il est saint, il est en mesure de ressentir tout ce que nous ressentons, mais il sera vainqueur. Mais il sera le premier Adam d'une nouvelle génération. Et ceux qui. Et maintenant, il dit, vous n'avez pas choisi, hein, Steve, toi, tu n'as pas choisi d'être un descendant de Adam et de Ève, mais tu peux choisir d'être issu de Jésus-Christ par la foi. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il dit, si on a cette possibilité de transférer d'une génération qui est sous la condamnation à une généalogie qui est libre. Et c'est là la chose, il dit, et les anges, ils sont tous excités quand on voit, il dit, sur la terre, tout le monde est endormi, rien ne se passe. Le ciel, il est en effervescence sur le fait que Jésus-Christ est né. Et ça, le ciel a explosé. Et c'est les bergers qui ont été les témoins. Une chose, il dit, mais je vous annonce une bonne nouvelle. Et puis après, tout d'un coup, il y a les multitudes d'anges qui chantent à la louange de Dieu. Pourquoi? Parce que tout d'un coup, il y a une espérance, il y a une solution à la situation des hommes que Dieu a créé à son image. Et là, je reviens à Apocalypse chapitre 5, et je vais lire les détails entre les deux passages. Et il y a de quoi se réjouir, et le ciel aussi se réjouit. L'Apocalypse chapitre 5, c'est un événement futur, mais est tellement sûr qu'on écrit comme si c'était déjà arrivé. Et donc, j'ai lu les versets, le verset 2, il dit, Apocalypse 5, verset 2, il dit, je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Verset 3, et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Donc vraiment, du point de vue naturel, si rien n'était fait, il n'y aurait personne qui puisse ouvrir ce sceau. Verset 4, je pleurais, c'est Jean hein, qui dit, je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et au verset 5, et l'un des vieillards me dit, Ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. Il dit, non, non, il y a quelqu'un, ne pleure plus, il y a quelqu'un. C'est pour ça que les anges se réjouissaient, là, en présence des bergers, parce qu'il y a quelqu'un. Et il dit, au verset 6, et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux, et ce sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Verset 7, il vint, hein, donc l'agneau, hein, nous savons qu'il s'agit de Jésus-Christ, hein, le rejeton de David, le lion de la tribu de Juda, l'agneau qui a été immolé. Il vint, il prit le livre de sa main droite, il prit de la main droite de celui qui était assis sur le trône, et quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe, des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient, comme la chorale qu'ont vu les bergers, et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu, qui régneront sur la terre. Je regardais et je voyais la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Et disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Voilà pourquoi cette multitude d'anges se réjouit, parce que ils savent ce que représente le fait que Jésus soit né. Et nous, nous sommes là en train de jouer avec nos petites lumières, et puis nos petits sapins, et nos deux petits. Et on ne pense plus à ce qui a réjoui les anges. Et eux, c'était pas eux les bénéficiaires. C'est pas eux qui allaient être sauvés. Eux, ils étaient dans le ciel. Ils se réjouissaient pour nous. Et nous sommes indifférents. Et qu'est-ce qu'ils ont dit, ces anges? En chantant, verset 14, dit gloire à Dieu dans les cieux très haut. Premièrement, on commence à louer Dieu. C'était une chose tellement merveilleuse. C'était encore. Il nous dit que quand Dieu a fait la création, les anges se réjouissaient. Mais là, c'est une œuvre encore plus glorieuse que la création du monde. Et il dit gloire à Dieu dans les hauts cieux. Mais c'est la deuxième partie sur laquelle on va s'arrêter. Il dit, et la paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Et là, je ne sais pas si vous êtes jamais posé la question pour savoir ce que ça voulait dire. Il y en a qui aiment dire ça, bon, Dieu va apporter la paix sur la terre, et puis la terre ira de mieux en mieux. Et il y a ceux de cette théologie-là. Mais ça ne se confirme pas, hein, dans la réalité. Juste pour vous donner une idée de la difficulté de la traduction, hein, je vais vous citer plusieurs traductions. Déjà, la Bible Crampon, hein, la Bible catholique, il dit gloire dans les hauteurs à Dieu et sur la terre, paix chez les hommes de bon vouloir. Paix chez les hommes de bon vouloir. Dans la Bible Martin, c'était la première Bible en français, dit gloire à Dieu dans les lieux très hauts, que la paix soit sur la terre et la bonne volonté dans les hommes. Donc c'est un souhait de bienveillance entre les hommes. Dans la Bible Osterwald, donc la Bible qui a été longtemps utilisée par les protestants, l'Église protestante, Eh bien, il dit gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre, bonne volonté envers les hommes. Dans la Bible Darby, que c'est une traduction assez littérale, hein, c'est du mot à mot, tellement c'est donc c'est très difficile à lire, mais c'est du mot à mot, dit gloire à Dieu dans les lieux très hauts et sur la terre, paix et bon plaisir dans les hommes. Dans la Tobe, qui est la traduction œcuménique, hein, qui normalement qui convient aux catholiques, aux protestants et à tout le monde, il dit gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre, paix pour ses bien-aimés. Tout ce que ça fait ressortir, c'est que on a des idées, mais on ne sait pas exactement ce que ça représente. Si c'est la bienveillance et la bonne volonté chez les hommes, ça ira mieux, hein, s'ils seront, la venue du Jésus, ça rendra un peu meilleur, ou est-ce que c'est réservé pour certaines personnes? Les hommes qu'il agrée, hein, ceux qui sont agréés de lui, eh bien, si je me pose la question, les hommes qu'il agrée, eh bien, oui, ça me fait penser à cette parole quand Jésus était baptisé. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Il dit, cela, lui me plaît. Hein, lui, ce qu'il est, ce qu'il a vécu, hein, c'est pendant ses 30 ans sur terre, sa manière de vivre, ça me plaît. Et en fait, Jésus lui-même a dit à ses disciples dans la chambre haute, hein, juste avant la croix, il a dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Il dit, oui, la paix, je la porte, la paix, je vous la donne, mais en fait, la paix, eh bien, c'est, si c'est Dieu que Dieu, Jésus que Dieu agrée, eh bien, ce sont ceux qui sont en Jésus-Christ qui vont être agréés de Dieu. Et c'est eux qui jouiront de cette paix. Jésus dit, c'est à vous que je donne la paix, vous qui êtes mes disciples. Et il dit donc, ce Jésus-Christ, il dit, Jésus-Christ est né, le Sauveur est né, le Seigneur est là, il est Seigneur. Gloire à Dieu pour cette œuvre extraordinaire qui est en train de se faire. Et puis ensuite, il est en train de dire, et il apporte la paix à ceux qui sont à lui, ceux qui sont en lui. Et puis nous pouvons avoir cette paix déjà maintenant. Vous savez, et c'est le message dont les bergers sont témoins, ils ont enregistré cela, ils ont été trouvés, Joseph et Marie et l'enfant. Et puis, et là, ils ont raconté, hein, il nous dit, hein, verset 17, après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Ils vont tout raconter. Et vous savez ce que Marie va faire avec ce qu'elle entend? Eh bien, il nous dit au verset 19, Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Eh bien, si nous voulons, si Marie est peut-être un modèle de quelque chose pour nous, eh bien, elle est un modèle de cela. Est-ce qu'elle a compris? Non. Mais elle a accepté. Hein? De la manière quand l'ange lui a donné une explication comment elle deviendrait enceinte, elle n'a pas compris plus que cela. Hein? Elle n'en savait pas plus. Mais elle dit, mais qu'il me soit fait selon les paroles du Seigneur. Selon ta parole, c'est tout. Je dis, bon, je pose plus de questions, je ne cherche pas à comprendre. Tu fais ce que tu as à faire. Et là, eh bien, on entend toutes ces choses extraordinaires et ce que les choses qui. Et elle repasse ces choses, elle les garde dans son cœur et les repasse. Et si elle le fait, nous devrions faire autant. Hein? Prendre conscience, retenir, donner de l'importance et pas être indifférent à ce que le Seigneur. Et les bergers, il nous dit au verset 20, les bergers s'en retournèrent glorifiant Dieu et louant Dieu pour ce qu'ils avaient entendu et vu. Il n'a pas dit ce qu'ils ont compris. Ce qu'ils ont entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Il a dit, il y a une partie Il y a une partie qu'on a pu vérifier, que l'enfant était né, était dans une crèche. Cette partie-là, on a pu le vérifier. Tout était exact, comme ils nous l'ont dit. Il y a toute une autre partie que on ne peut pas vérifier, mais qu'on va croire et on va louer le Seigneur pour cela, même si on ne comprend pas. Et c'est en fait, c'est comme ça que l'enfant de Dieu avance. Il ne peut pas tout vérifier, tout ce que la Bible dit. On ne peut pas vérifier. Et dans la vie même, on ne vérifie pas tout. Hein? Il y a beaucoup de choses qu'on accepte sans comprendre. Sinon, on serait encore dans les grottes. Mais il dit, c'est une question de, le Seigneur m'a dit qu'il me pardonnerait mon péché, qu'il me donnerait une vie nouvelle, un désir nouveau. Il y a des choses que je peux vérifier. Et à partir du moment que cette partie-là que je peux vérifier, eh bien le reste de tout ce qu'il me promet, moi je le crois. Et je crois dur comme de la pierre. C'est certain. Vous me dites, tu crois vraiment qu'il va aller au ciel après la tombe? Je dis oui. Mais d'où tu sors ça? Parce que quand j'ai demandé au Seigneur de pardonner mes péchés, il m'a pardonné et j'ai eu la joie, le soulagement et les péchés. J'ai été délivré. Cette partie-là, je peux la vérifier. Donc je crois le reste. C'est tout. C'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est ça qui nous permet d'avoir cette belle espérance. Et quel bel exemple pour nous. Et nous avons Marie qui est, ce qu'elle entendait, elle a donné de l'importance, elle l'a gardé dans son cœur. Et pour les bergers, eh bien, ils ont vérifié ce qu'ils pouvaient vérifier et le reste, ils l'ont cru et ils louaient Dieu, ils allaient de l'avant comme cela. Et c'est ce que nous devons faire. Et nous ne pouvons pas faire mieux qu'eux, mais nous pouvons faire tout ce qu'ils ont fait. Et que le Seigneur nous aide et nous accompagne et vivons pour lui. Peu importe si tous les habitants de Bethléem sont endormis, et alors? Et tous les habitants de Fréjus sont endormis, et alors? Mais le Seigneur est à l'œuvre. Et le ciel se réjouit de ce qu'il est en train de faire et ce qu'il va faire. Et nous devons le croire. Et nous devons marcher avec assurance. Et les bergers, ben, ils ont glorifié Dieu, même s'il n'y a personne qui se sont joints à eux. Ils sont peut-être se retrouvés tout seuls dans le pré, avec leurs brebis après. Et puis raconter à ceux qui étaient restés tout ce qu'ils avaient vu. Mais ça, c'était leur expérience. Hein, et Luc, qui lui était celui en écrivant l'évangile, là, c'est lui qui a été vérifié toutes ces choses. Il a dit, moi j'ai fait, hein, vous lisez les premiers versets de son épître, son évangile, il a dit, j'ai été vérifié chaque chose. Comme un journaliste, j'ai été vérifié et certainement qu'il a trouvé ses bergers. Il a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez vu? Et ils étaient prêts à le dire. Hein, et c'est pour ça que nous l'avons dans l'évangile de Luc. Matthieu n'a pas pu les trouver. Mais Luc les a trouvés et il a vérifié. Et c'était ce que le Seigneur voulait qu'il trouve. Et maintenant, la question, c'est maintenant, qu'est-ce que moi je vais faire? Hein, l'information est là. Je comprends que le Sauveur est né et que ce Sauveur, tout en étant entièrement homme, autant qu'Adam était homme, il était aussi le Seigneur incarné. Et c'était pour nous sauver. Et est-ce que cette réalité est là, surtout en cette période où il y a tellement de distractions? Mais n'oublions pas que Christ est venu, c'est pour être notre sauveur et pour nous délivrer d'une situation de laquelle nous ne pouvions pas nous extraire. Il a accepté de se salir des péchés des hommes pour pouvoir sauver les hommes. Lui qui était tellement pur. Hein, c'est une chose. Prenez un chat et vous le jetez dans la saleté, il reste pas là. Hein. Aïe! Il sort le plus vite possible et puis il nettoie ça directement. Prenez un petit cochon, ah, bah, lui, ça lui plaît. Hein. La nature n'est pas la même. Le désir n'est pas le même. Et dire que le chat est entré dans la mare pour sortir et de la boue du marécage, pour sortir le cochon de là? Ben c'est ça l'évangile. Et c'est même plus beau que ça. Ça, c'est le message de Noël. Que le Seigneur nous aide à ne jamais l'oublier. Père Céleste, combien nous sommes reconnaissants à toi pour ton message, pour le message des anges. Et il fallait que tu informes quelqu'un. Et ces bergers qui étaient peut-être méprisés par la société de l'époque, eh bien, c'est à eux que tu as parlé. Le Seigneur, peut-être que nous pouvons faire partie de cette population qui est un peu méprisée ou ignorée. Mais Seigneur, si tu veux faire une œuvre au travers, avec nous, au travers de nous. Et nous voulons nous réjouir. Et même si nous sommes seuls à nous réjouir, nous voulons nous réjouir de ce que tu as fait, parce que c'est une belle chose. Père, nous te remercions pour ce message que tu as gardé pour nous, que nous pouvons lire et relire. Et Seigneur, et nous voulons te louer et te glorifier pour cela. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions, Père. Amen.
Amen.